Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le nouveau Flash Sport du week-end dernier. On va parler de foot, de rugby, de handball, de basket et on va faire un petit point sur le sport de combat pied-point en fin de Flash. On va commencer par le football et bien sûr la CFC qui jouait en National 2, qui recevait pour la quatrième fois consécutive dans ce mois de novembre hyper important pour le club angoumoisin. C'était la réception du Stade Bordelais qui devait marquer un tournant puisque la CFC restait sur une série de victoires-défaites et puis surtout... le Stade Bordelais représentait le troisième promu reçu à Lebon. Il y avait eu cette défaite contre Saumur en entame de championnat, puis la victoire contre Vierzon. Donc ce match contre les Bordelais était un véritable test. Et malheureusement, c'est une défaite 1-0 pour les Angoumoisins. Un match typique de National 2, hein, où Angoulême a eu beaucoup d'occasions. Il y a eu un gros gardien en face. Et puis malheureusement, le Stade Bordelais a marqué sur l'une de ses rares occasions. Puisque en fait c'est Pierre Janin du Stade Bordelais qui marque au bout de 21 minutes de jeu. D'ailleurs la CFC tente de réagir, la CFC retire même un penalty à la 35e minute par Godfred Bekwe qui malheureusement voit l'arrêt d'Anthony Loustalo, le gardien des Lions. En seconde période, Angoulême pousse, plusieurs occasions à signaler, la tête de Chris Goteni repoussée par le gardien, la tête de Youssouf Ndaye également repoussée par le gardien. Et dans le temps additionnel à la 96e minute, Noah Marchesso croit donner l'égalisation aux Angoumoisins. Malheureusement, c'est Janin, le buteur, qui est revenu défendre sur sa ligne et qui permet au Stade Bordelais de gagner 1-0. On était dans les vestiaires à la fin du match avec David Giguel, l'entraîneur de la SFC. On l'écoute tout de suite.
Bon David, malheureusement, défaite 1-0 ce soir contre le Stade Bordelais. Vous avez notamment beaucoup poussé en fin de match, beaucoup d'occasions. Leur gardien a fait beaucoup d'arrêts et malheureusement, c'est le Stade Bordelais qui repart avec 3 points ce soir.
Ouais, je regrette un peu les 20-25 premières minutes où on a mal débuté. On n'a pas fait ce qu'on avait prévu de faire. On avait prévu de jouer comme contre Nantes un peu plus haut et d'aller les presser, les agresser. Et puis ça n'a pas fonctionné comme on a voulu. Donc logiquement, le Stade Bordelais a ouvert le score. Puisqu'ils ont maîtrisé les 20-25 premières minutes. Et puis après, on est bien revenu dans le match. On a fait ce qu'il fallait dans le dernier quart d'heure et puis dans la deuxième mi-temps. Voilà, on a manqué de réussite, on a manqué aussi d'adresse, parce que même si leur gardien a fait de beaux arrêts et a fait un excellent match, on aurait dû certaines fois être plus adroit, nous aussi, pour le battre. Ça fait partie du foot, il faut continuer de bosser et se concentrer maintenant sur le prochain match à Lorient qui sera important.
Le pénalty d'ailleurs en première mi-temps, c'est aussi dans les fonds du match. Si vous égalisez derrière, ça peut changer sa physionomie.
Ouais, c'est un pénalty. Je ne sais pas comment il est frappé. Après, pour louper des pénaltys, il faut aller les frapper aussi. Donc,
oui, tout à fait.
Voilà, j'en veux pas du tout à God. C'est arrivé à plein d'autres joueurs avant. Le gardien fait un bel arrêt. Voilà, il faut qu'on soit plus adroit dans la finition en général et notamment aussi sur des pénaux. Mais c'est vrai que c'est quand même un tournant du match puisque si tu égalises juste avant la mi-temps, mentalement ça te met dans de meilleures conditions et puis ça 1-1 à la mi-temps, c'est différent d'un 0. On aurait peut-être pu mentalement être encore mieux en deuxième mi-temps.
Et puis malheureusement, vous êtes dans une période en ce moment où ça fait une victoire, puis une défaite, puis une victoire, puis une défaite. Il manque ce second succès d'Oran qui vous permettrait de basculer peut-être dans la bonne moitié du tableau. Qu'est-ce qui fait la différence entre Nantes la semaine dernière où il y a 3-0, c'est un festival, et ce soir où il y a 0-1, mais il y a forcément beaucoup d'occasions aussi de votre côté?
Ouais, déjà c'est un championnat qui est très dense, très homogène, donc les rencontres se jouent à peu de choses. Le week-end dernier, je l'avais rappelé aussi après le match, Alan nous laisse dans le match à 0-0 au tout début de match. Il fait des beaux arrêts aussi à 1-0 ou à 2-0. Donc voilà, on a été plus efficace dans les deux surfaces le week-end dernier. C'est ce qui fait aussi la force des équipes qui réussissent dans ce championnat. Là, on a été un peu moins efficace chez nous dans les 20-25 premières minutes. Et puis, on n'a pas fait preuve d'assez d'efficacité dans la surface adverse quand on avait l'occasion de pouvoir scorer. Donc, c'est ce qui fait la différence sur les matchs en général dans cette poule-là.
Et puis, ce soir, il y a les premiers pas de Youssouf Ndiaye à CFC. Il fait pour moi une bonne rentrée en deuxième mi-temps. Ça, c'est un profil intéressant qui va forcément vous apporter sur les prochains matchs.
Ouais, il a fait une bonne rentrée, il a été intéressant, il a apporté ses qualités, il a apporté dans un autre registre, un registre qu'on n'avait pas jusqu'à présent, donc c'est aussi une satisfaction ce soir de savoir qu'il est prêt à jouer au moins 30-35 minutes et puis j'espère qu'il continuera et puis qu'il nous apportera encore plus au collectif sur les prochains matchs.
Voilà, forcément déçu de s'être incliné, malgré tout le travail continue, il reste encore 20 journées dans ce championnat, donc on n'a fait qu'un tiers de la saison, donc la saison est encore longue. Seulement deux matchs dans ce week-end de National 2, puisque les autres équipes étaient en Coupe de France, donc Angoulême malheureusement s'incline 1-0 contre le Stade Bordelais, et Andrézieux et Moulins font 0-0 dans l'autre partie. Pas de changement au classement, Gaul FC est toujours en tête avec 19 points, deuxième Saumur 16 points, et troisième le Stade Bordelais, puisque le vainqueur de Stade Bordelais CFC montait la troisième place, et donc c'est le Stade Bordelais qui se retrouve troisième avec 16 points. Angoulême est huitième avec 12 points, mais Angoulême compte désormais un match de plus que la plupart de ses concurrents, donc il faudra surveiller les résultats des matchs en retard qui se disputeront sur une date ultérieure. En Régional 1 en poule B, Cognac et Fétias font match nul 3 partout, et malheureusement la réserve de la CFC s'incline 5-4 chez la réserve de Trélissac. C'est une quatrième défaite consécutive pour les hommes de David Perrier, qui ont malgré tout ouvert le score très rapidement par Noah Marchessault, mais la suite de la mi-temps a été plus compliquée puisque Trélissac revenait au vestiaire avec un avantage de 3 buts, 4-1. En seconde mi-temps, 5-1 pour Trélissac, et puis après il y a eu une belle remontée de la part des réservistes angoumoisins avec notamment un but de Julien Inizan et un doublé d'Antonin Lanier. Malheureusement, la réserve de la CFC vient mourir à un but et s'incline 5-4. Donc la réserve de la CFC est 10e avec 8 points et Cognac est 8e avec 9 points, sachant que le derby charentais entre la CFC et Cognac aura lieu vendredi prochain au Stade Lebon à 20h. Donc les deux équipes charentaises de R1 vont faire face l'une à l'autre. Ça va être un retour au bercail pour beaucoup de Cognacais hein, qui ont joué ou qui ont été formés sur Angoulême. Donc ça promet un match très disputé. En Régional 2 en poule A, victoire de Leroy chez la Lanterne Rouge Nintré, victoire 2-1 des Métallos. C'est une victoire qui fait du bien puisque Leroy remonte à la 7e place avec 9 points. En poule B, match reporté pour Merpin qui recevait la Rétez. Charente-Limousine s'incline 4-0 contre l'Étoile Maritime et Cognac s'incline également 2-1 contre Mignalou Beauvoir. Au classement de cette poule B, Charente-Limousine est 4e avec 15 points, Merpin est 9e avec 6 points et Cognac est dernier avec 3 points. En poule D, Sireuil a vu également son match reporté face à Sainte et malheureusement Jarnac s'est incliné au Bousca contre la Bouscatèze 4-0. Au classement de cette poule, Sireuil est 3e avec 12 points et Jarnac est 8e avec 9 points. En Régional 3, pardon, en poule C, le match sommet entre Ruffec et Limoges accouche d'un match nul, un partout, tandis que Confolens va gagner à Aix-sur-Vienne 2-1, une belle opération pour les hommes de Vincent Villedieu qui remontent à la 6e place avec 10 points. Ruffec est 4e avec 14 points. En poule F, la poule des Charentais, La Roche-Rivière s'incline à Coulommiers-Chamiers 3-1. Ruel est battu par Vindel 3-2. Soyaux bat Thénon-Limiéra 6-0. Et enfin, dans l'autre derby charentais du week-end, c'est Saint-Aix qui s'impose à Puymoyen 3-1. Saint-Aix continue sa folle course en tête avec 8 matchs, 8 victoires, 24 points pour les hommes de Michael Ruiz. Soyaux est 4e avec 13 points. 5e, Puymoyen avec 12 points. 7e, Vindel avec 10 points. 8e, Ruel avec 8 points. Et enfin, La Roche-Rivière est 11e avec 4 points. Enfin en poule G, la poule de notre invité Adnan El Archi, la Alliance 3B s'est imposée 7-1 contre Mata. L'Alliance 3B est reçue 7 sur 7 dans cette poule G, 21 points, c'est 5 points d'avance sur la Loubès et sur le Racing Club de Bordeaux. En D1, en district, il y a eu quelques matchs reportés à cause des intempéries. En D1, donc Basso et Saint-Michel ont fait un partout. Le Roi a battu Champigny 4-3. Les Portugais du Gompontour ont perdu à domicile contre les Sacs 3-1. Et enfin, l'Alliance 3B a battu Brie 4-3. Au classement, Saint-Michel est toujours en tête avec 20 points. Deuxième Champigny 18 points. Et troisième, Basso avec 16 points. En D2, en poule A, il y a eu seulement deux matchs de jouer. Montbron a battu Ruffec 3-2. Et Saint-Aix a été gagné à Mansle 3-0. Au classement, Sireuil est toujours en tête devant Mornac et Chasseneuil. Aigre ferme la marche. Et enfin, en poule B, un peu plus de matchs joués puisque Sud-Charente a battu Saint-Brice 1-0. Jarnac et Grande-Champagne, il y a eu 6-1 pour Jarnac, 3-0 pour Ruel à Champigny, 2-1 pour Saint-Séverin à Châteauneuf. Et le coup de tonnerre est venu de Nersac puisque Nersac a été gagné à Linard 2-1. Linard qui était un leader invaincu jusqu'à présent. Mais Linard reste en tête malgré tout avec 21 points devant Jarnac et Grande Champagne qui comptent tous les deux 18 points. On va parler rapidement de D1 féminine avec la Gisoyau qui s'est déplacée à Montpellier. La Gisoyau ramène un bon point de l'Hérault avec un match nul de partout. Gisoyau qui ouvre le score sur un penalty de Laura Bourgoin en début de match. Montpellier inscrit 2 buts, mais c'est Daniel Roux qui en fin de match permet à la J de ramener un bon point de Montpellier. Donc c'est le premier point pris par Michel Brazaia sur le banc sojadicien. On va donner les scores des autres matchs avec Guingamp qui s'incline 3-0 contre le Paris FC. Donc Montpellier et Soyo qui font 2 partout. Dijon qui s'incline 5-1 à domicile contre Fleury. Reims Rodez 0-0. Bordeaux et s'incline contre le PSG 3-0. Et enfin Lyon s'impose contre le Havre 1-0. Lyon est en tête 22 points devant le PSG 20 points. Et le Paris FC 3e avec 18 points. Soyo est 10e avec 5 points. Égalité de points avec le premier relégable Rodez, mais à la différence de but particulière, Soyo est devant. On va rappeler le score du SA15 qui s'est incliné à Grenoble, 24-18, malgré le beau match des Violets, un match où malheureusement 0 points sont ramenés de l'Isère. L'UCS en national s'est encore incliné face à Nice, 28-13. C'est une nouvelle défaite pour Cognac qui malheureusement n'arrive pas à gagner cette année. En handball en National 2 masculine, eh bien les Tech poursuit son parcours en tête de la poule avec une belle victoire contre Bègles 29-21. Les Tech est premier et compte 2 points d'avance sur Bruges et sur Libourne. En National 3 féminine basketball, la Couronne Basket se déplaçait à Saran. Et malheureusement, c'est une lourde défaite pour la Couronne qui s'incline 72-54. La Couronne est 11e et avant-dernier, malheureusement, avec 2 victoires et 7 défaites. Compliqué pour les Couronnaises, malgré tout, qui ne comptent qu'une seule victoire de retard sur les 7e. Donc, l'espoir reste de mise pour le maintien. Et on va terminer ce flash par de la boxe pied-point avec Karim Youssouf de la team Flalay Boxing qui s'est déplacé ce week-end sur un gala du côté d'Agde, la Kicks Night. Et Karim donc a combattu dans la spécialité du kickboxing et il a gagné son combat contre Thomas Véziès, donc en moins de 78 kilos. Karim Youssouf remporte ce combat au point. Une belle victoire pour Karim qui est vraiment l'espoir de la team Flalay. Donc on surveille son parcours avec attention dans l'équipe d'attitude et puis on lui souhaite bonne chance pour ses prochains combats. On retrouve tout de suite l'interview d'Adnan El Archi avec Didier et Dédé. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouveau flash résultat. Bonne soirée. Au revoir.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Attitude, votre radio 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi www.attitudefm.com et en podcast, rubrique sport. Bienvenue dans Culture Sport, votre émission hebdomadaire, chaque lundi 19h-20h30. Nous accueillons Adnan El Archi, coach de l'Alliance 3B. Adnan, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue.
Bonjour à tous, merci à vous de m'avoir invité surtout.
J'accueille Dédé, donc bonjour mon Dédé.
Salut les copains.
En pleine forme?
Oui, ça va, ça peut aller.
Avec un cœur de 20 ans, super.
Oui,
J'accueille Christian aussi. Bonsoir Christian, bienvenue.
Salut Didier, merci.
Christian, je te laisse la main pour lancer les premières questions à Adnan, donc nous sommes tout à votre écoute.
Bah écoute, on va forcément parler de sa saison à l'Alliance 3B, sa première saison en tant que coach chez les seniors, pour l'instant qui se passe très bien. Avant de laisser la main à Dédé sur les résultats sportifs, moi j'avais une première question pour Ad. On te connaît à ton arrivée à la CFC en tant que joueur, mais quel était ton parcours de joueur? Parce qu'avant avant d'être coach, t'étais un joueur. Quel était ton parcours de joueur avant d'arriver sur Angoulême?
Alors, parcours de joueur, donc moi j'ai été formé dans une petite ville près d'Orléans, à Pithiviers, donc où j'ai fait mes classes de jeunes. Ensuite, à l'âge de 15 ans, j'ai fait un sport-études à Orléans au FCO Saint-Jean pour intégrer le club en 15 ans nationaux et 17 ans nationaux. Et à la fin de ma première année en 17 ans nationaux, donc c'est-à-dire en U16, j'ai dû être transféré, entrer au centre de formation du Mans, où j'étais recruté sur un contrat stagiaire pro et aspirant. Donc voilà, j'ai passé 3 années là-bas et ensuite un parcours à jouer les tours en CFA2. Et je me suis exilé au Portugal avec une proposition qui a été faite pour aller intégrer le club de Braga en m'entraînant l'équipe première et puis en jouant l'équipe B. Donc j'ai vite intégré aussi l'équipe première où il y avait Gesualdo Ferreira, l'entraîneur. Donc j'avais une facilité pour parler le français avec lui. La deuxième année, j'ai été prêté à un club de D2 au Portugal. Lessa de Palmeira, un club de Porto. Et par la suite, donc je suis revenu en France à Castelnau-le-Crès en CFA2. Donc j'ai fait une année là-bas et ensuite je me suis exilé à Chypre. Donc où j'ai passé 5 années, donc en deuxième division et une année en première division.
Et donc tu es arrivé du coup de Chypre direction la Charente après.
Voilà, j'ai passé une année à l'UNFP, donc où je m'entraînais avec un groupe où il y avait des joueurs sans contrat et qui attendaient une attente de contrat. Et c'est à ce moment-là que j'avais des propositions, dont celle de Patrick Trio pour intégrer le club d'Angoulême, où c'était un club, Patrick m'avait convaincu parce que c'était un club qui avait des ambitions de monter en National 3. À cette époque-là, c'était CFA2. Donc d'intégrer le groupe R1 et d'essayer de jouer la montée. Donc je suis arrivé, c'est vrai que ça m'a changé un petit peu, parce que sortir du monde pro où tu t'entraînes tous les jours et de revenir dans l'amateur, donc il m'est arrivé quelques pépins, des petites blessures, et puis le football, revenir en France et retrouver un petit peu le football français, sa façon de jouer et tout ça. Donc j'avais du mal au début à m'intégrer au système et tout ça, et puis petit à petit ça allait mieux. Donc après, voilà, c'était une année un petit peu mitigée pour moi, mais la montée était là au bout et c'est le principal. Donc ensuite de ça, j'ai eu ma blessure en fin de saison, ligament croisé. Donc le temps de récupérer, ça a mis beaucoup de temps parce qu'il y a des complications. Et en attendant, je profitais pour me former. Donc j'ai passé un BPJEPS et par la suite mes diplômes d'entraîneur, donc CFF1, CFF2, CFF3. J'étais au BMF, j'ai enchaîné derrière par le BE. Et voilà, j'ai continué à entraîner. Et j'avais repris avec l'AB Angoulême donc pendant quelques temps, et puis après je me suis consacré complètement à mes équipes de jeunes. Donc j'ai fait toutes les équipes de foot à 11, donc c'est-à-dire U14, U15, U16, U17, U18. Donc j'ai passé 5 années sur la formation à Angoulême, et dont le développement du foot féminin.
Oui, je voudrais en parler tout à l'heure avec toi, donc on va tout de suite switcher sur l'Alliance 3B. Juste pour préciser que tu étais attaquant et que du coup à ton arrivée en Angoulême, vous formiez la doublette d'attaquants avec Gilles Fabien à la pointe de l'attaque. Je vais laisser Dédé sur les résultats, peut-être qu'il a dû analyser les classements.
Tout d'abord, je te salue pour notamment la disponibilité de ce jour. Et deuxièmement, on va donc rentrer dans le détail. Alors, si j'ai bien compris, c'est la première année que tu as rejoint la formation de l'Alliance 3B. Quel a été notamment quand tu es arrivé, quel a été tes projets?
Alors mes projets, la première chose, c'était déjà, j'étais encore dans le flou parce que j'étais encore je venais de finir la saison avec les filles, j'étais dans le questionnement si j'étais prêt déjà. Ça faisait un petit moment que j'avais cette envie d'aller dans le monde senior après passer 4 années dans le groupe dans la formation. Donc je me suis dit ouais, c'est temps de me lancer. Donc j'avais cette envie, mais je voulais quand même terminer mon projet féminin. Donc quand je l'ai fini, à ce moment-là, donc j'attendais les bonnes propositions, surtout un projet concret où il y avait des choses à travailler, et puis surtout un club qui avait des moyens, qui peut me permettre de bien travailler. Donc voilà, il y avait 2-3 propositions où j'ai hésité, et du coup voilà, après avoir discuté avec le président Xavier Fornel, donc on a essayé de mettre en place des choses. Donc il m'a parlé, donc il y avait déjà une ossature du groupe qui était en place, qui avait fait du bon travail depuis 2-3 années, mais qui avait pas, voilà, qui manquait quelque chose pour finir cette montée. Donc bon, il y a eu le Covid aussi qui les a empêchés de monter la première année, mais l'année dernière ils ont fait le coche à la dernière journée, mais qui a été très difficile. Donc voilà, on a analysé les choses. Donc avec le président, j'ai essayé de voir quelles sont. On a fait un diagnostic par rapport à la saison dernière. On a essayé de voir quelles sont les difficultés qu'il y a pu avoir. Donc voilà, on a pu constater que le groupe n'était pas élargi, était assez un effectif assez court. Donc c'est forcément, c'était compliqué pour avec les suspensions, des blessés, ça peut arriver que voilà, il y a des matchs, on se retrouve avec des joueurs qui pouvaient être en difficulté, qui n'ont pas joué forcément de l'année avec le groupe A, donc ils se retrouvent à jouer leur premier match et voilà, ils ont dû faire quelques défaites qui a coûté cher. Après bon, il y a eu des situations personnelles, donc forcément avec Titi Jarre qui a quitté le club en cours de saison, donc ça a dû chambouler un peu le groupe. Donc Modeste est revenu, donc ils ont enchaîné des victoires, donc le groupe était sur une bonne dynamique. Il y a eu des départs, donc moi j'étais dans cette optique d'essayer de combler ces départs avec la politique, avec le président qu'on avait décidé, c'était de que je voulais ramener des joueurs jeunes qui avaient des ambitions, qui avaient des choses à prouver, qui avaient une marge d'évolution pour aller jouer au plus haut niveau régional. Donc j'ai recruté quelques joueurs, dont certains que j'avais dans mon groupe en formation jeune à Angoulême, et quelques recrues que j'avais déjà ciblées avant d'arriver à Barbezieux pour pouvoir renforcer ce groupe-là. Donc on a renforcé tout ce qui est offensif et milieu de terrain, et puis la défense, j'avais pas forcément besoin de toucher parce qu'il y avait des joueurs expérimentés qui étaient déjà formés à Angoulême, qui avaient déjà un certain niveau d'expérience et un certain niveau de football, donc ils avaient joué en National 3, voire certains qui ont déjà joué en pro. Et donc j'ai gardé mon ossature défensive et puis j'ai essayé de combler le reste avec Alexandre Dacunia au milieu de terrain et puis Momo Soilier en pointe. Donc j'ai essayé d'animer l'offensif avec des joueurs jeunes, avec du potentiel. Donc c'était l'objectif et aujourd'hui, voilà, on a mis un groupe assez large, je dirais correct. Donc on avait un groupe de 20 joueurs. Et puis voilà, j'avais une demande au président, c'était d'avoir un préparateur physique. C'était important pour moi parce que pour éviter les blessures et pouvoir avoir une dynamique d'entraînement correcte et puis que les joueurs soient en bonne santé, donc c'était important d'avoir un préparateur physique pour la réathlétisation et surtout un staff médical. Donc moi j'ai réussi à avoir un kiné derrière dont on travaille beaucoup avec Arnaud Dutillois qui est sur la couronne et puis Léo Imbert qui travaille avec Angoulême et qui reçoit aussi certains de nos joueurs. Donc ça nous permet d'avoir un staff et d'être bien, d'avoir les meilleures conditions pour pouvoir enchaîner les matchs. Et c'est ce qui se passe depuis le début de saison.
Pour compléter la question d'aider, c'est important pour toi d'arriver en terre connue dans le sens où beaucoup de joueurs de l'effectif, tu les connais de la SFC, des joueurs comme Quentin Mignoneau, Quentin Leroy, Richard Pelletier, Dacu, Momo Soilier. Et puis aussi l'arrivée donc en tant que préparateur physique de Nathan Traoré, j'imagine que pour toi c'était vraiment important forcément d'arriver dans un nouveau club, donc il y a toujours une part d'inconnu, mais de limiter cette inconnue avec des joueurs que tu connaissais et puis un prépa physique que toi-même tu connaissais et donc tu connaissais aussi les méthodes de travail.
Oui, forcément quand tu arrives dans un groupe et que tu connais les trois quarts des joueurs, donc c'est vrai que c'est plus facile pour moi. C'est des joueurs avec qui j'ai joué, c'est des joueurs que j'ai côtoyés aussi, donc je connais leur mentalité, je connais leur sérieux, donc je me suis dit voilà, j'arrive dans un groupe quand même déjà expérimenté qui peut m'apporter quelque chose et qui pourront aussi m'aider à structurer cette équipe et d'essayer d'envisager des ambitions avec ce groupe-là. Donc voilà, donc moi après j'avais déjà mes joueurs ciblés, donc je savais que ça allait. Le but c'était de matcher, donc que les anciens puissent apporter leur expérience à ces jeunes joueurs qui ont du potentiel. Et c'est ce qui s'est passé, ils ont été bien accueillis. Ça, je les remercie aussi aux anciens, donc aux expérimentés. Et voilà, on a commencé le début de saison. Après Nathan Traoré, donc c'était, je vais dire, Nathan n'était pas prévu à la base, donc c'était Antoine Delval qui était prévu en tant que préparateur physique, qui était joueur.
Il est parti à Brest, il me semble, c'est ce qu'il avait dit Nathan. Ouais.
Voilà, exactement. Donc c'est un joueur de Cognac que j'avais récupéré, qui avait fini sa licence TAPS et qui était sur du management à Bordeaux, donc il cherchait une structure pour pouvoir faire de la prépa physique et travailler sur de la com. Donc Antoine, je le connais très bien parce que c'est moi qui l'ai fait venir à Angoulême, donc je l'ai côtoyé pendant quelques années, donc j'avais envie de travailler avec lui, je savais qu'il était compétent dans ce domaine-là. Mais malgré ça, bon, avant que la saison commence, il a été contacté par Brest pour finir son cursus, donc il a été, et c'était bon pour lui et je suis content pour lui, et puis qu'il puisse revenir avec un bagage pour pouvoir nous aider l'année prochaine sur ce domaine-là, tout ce qui est vidéo et tout ce qui est aspect athlétique. Oui, donc voilà, j'ai dû contacter Nathan à la dernière minute, donc voilà, je voulais savoir sa situation par rapport à Angoulême, donc voilà, il m'a dit qu'il était libre, qu'il attendait des propositions, pourquoi pas, et donc nous on lui a fait une proposition et clairement j'avais vraiment envie de travailler avec lui parce que je l'ai connu aussi quand il était dans le groupe BR1 avec Johan Dumais. Donc moi j'avais les 18 à ce moment-là, donc on travaillait en commun, donc j'avais vu son travail et puis je trouvais ça super intéressant pour notre groupe et c'était un plus. Donc aujourd'hui on en est content et le groupe en est content et on voit la différence quand on a un préparateur physique compétent, ce que ça peut apporter pour un groupe.
Vous avez choisi Attitude 98.3 et 97, mais aussi www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission des sports. Chaque lundi, 19h-20h30, nous retrouvons Adnan El Archi qui répond aux questions de Christian et de Dédé. C'est à vous, messieurs.
Au regard des résultats, certes, la mayonnaise a pris, hein, c'est ce qu'on dit dans le terme footballistique. Et les résultats, bah, je crois que c'est 5 matchs.
6 matchs.
Vous êtes premier avec 18 points et voilà, Saint-Louis c'est deuxième avec 15 points.
Voilà, on est premier avec 2 points d'avance et un match en retard.
J'ai sauté un résultat, excusez-moi.
Donc on est premier avec 2 points d'avance et un match en retard. Et bon, aujourd'hui, bah forcément, oui, je pense pas qu'on a joué les meilleures équipes, mais on a joué des équipes qui sont difficiles à jouer, surtout à l'extérieur. Je parle de l'Alliance du Moron où on a été, et puis Marraine, le premier match où on avait pas mal de blessés offensivement, on a réussi à ramener un petit 1-0, mais qui n'est pas négligeable. Ouais, ouais. Mais ensuite, derrière, bon, on a récupéré nos joueurs, on a essayé d'enchaîner, mais après, c'est un travail qui a été fait depuis le mois d'août, en fait. C'est parce qu'on a enchaîné 4 matchs amicaux où on a fait 0 défaite. Mmh. Donc c'était une bonne augure. On avait joué des équipes de R2 qui nous ont permis de nous juger un petit peu notre niveau. Il me rappelle, je pense qu'on avait joué le premier match Ruffec, on a fait match nul. Ensuite, on a enchaîné le Roi, on a fait une victoire 3-1. On a été à Charente-Limousine, on a gagné 3-1. Et on a fini par Jarnac, on a fait 4-4. Donc, on a senti que, voilà, qu'on a été capable d'avoir des bons résultats, sans défaite surtout, même si on ne gagnait pas tous les matchs. Et puis, on était prêt à enchaîner. Bon, après, il y a eu la Coupe de France, forcément, qui nous ont permis d'enchaîner des matchs. On avait fait quelques tours, donc on est arrivé au 4e, je pense, s'il me semble.
Ouais. En plus, vous perdez chez une équipe hiérarchiquement supérieure, donc c'était pas non plus une sortie.
Ouais, mais Rignac Arla qui joue sa montée, qui est un prétendant à la montée en National 3, donc où on a fait une très belle prestation. Ça nous a permis aux joueurs et à moi de nous juger par rapport à ces équipes-là, de quoi on est capable face à des équipes de R1. Et de hausser le niveau aussi contre des équipes de R1, on a fait un très très bon match malgré le résultat, 3-1, mais on les a fait douter jusqu'au bout et on peut être fier de ce parcours aussi face à cette équipe de Mérignac.
Sachant que Mérignac, plus tard, ils ont joué contre les Chamois Niortais, hein, c'était au 7e tour, c'était il y a 2 semaines, et en fait, ils ont perdu que 1-0 contre les Chamois Niortais. Hein, donc ça veut dire quand même que c'était une très belle équipe de R1 et que vous avez fait plus que
qu'ils avaient mis 5-0 à Boulazac la semaine d'avant qu'on les joue, quoi.
Au début de saison, on s'aperçoit à travers les résultats que j'ai pu donc obtenir et essayer de les réactualiser. Tu dis, la défense, j'avais pas à la toucher. Ça se confirme aujourd'hui. Parce que vous avez pris peu de buts. Et par contre, l'attaque, vous en marquez.
Alors, ce que je peux constater par rapport à la saison dernière, c'est que la défense, elle a été beaucoup remaniée parce qu'il y a eu pas mal de blessures et de suspendus. Donc, je pense qu'ils ont rarement joué avec leur défense au complet.
Je parlais au niveau effectif.
Bien sûr. Après, je parle des expérimentés qu'on a, où j'ai pas touché. C'est parce que ils ont jamais pu forcément enchaîner des matchs avec la même équipe en défense.
Bien sûr.
Aujourd'hui, on a mis en place, comme j'ai dit, un staff technique, un staff médical et aussi un préparateur physique, un staff qui a permis d'entretenir ses joueurs et de faire attention aux blessures. On peut le constater aujourd'hui, depuis le mois d'août, on joue quasiment pratiquement avec la même équipe et la même défense. Mmh. Et ça, c'est une bonne chose. Je croise les doigts pour que ça continue. Mmh. Et le fait d'enchaîner des matchs avec la même composition défensive, ça permet de trouver des relations et d'être prêt physiquement pour pouvoir enchaîner et trouver des attitudes qui permettent des complémentarités avec certains. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et puis voilà, aujourd'hui on enchaîne 3 matchs sans clean sheet, avec des clean sheets, donc tant mieux. Donc il va falloir continuer dans ce domaine-là. Forcément, si la défense est impériale, le résultat est favorable pour nous, parce que je pense que offensivement on a de quoi répondre, malgré que Momo Soilia est absent quasiment depuis le début de la saison.
Ouais, mais il a mis un doublé.
Le problème, c'est qu'avec Momo Soilia, donc on sait très bien qu'il est redoutable devant le but avec ses 20 buts la saison dernière. On savait que malgré qu'il ait une petite gêne au niveau du genou et qu'il fait des bouts de match, il lui faut à peu près 10 minutes pour marquer 2 buts. Donc voilà, ça booste un peu l'équipe quand même sur cette petite demi-heure, et de l'avoir sur le banc aussi, ça permet aussi d'avoir une supplémentaire aux joueurs.
quand tu as rejoint la Lens 3B, donc forcément c'est un club qui espère monter en R2 depuis plusieurs saisons, tu t'as rappelé un peu l'historique. Toi, est-ce qu'il y a un horizon, est-ce que tu as signé pour X années, enfin quelle est l'ambition à terme au final de ce projet?
Alors la discussion avec le président, c'est vrai que moi le mon objectif c'était d'arriver dans un club avec un projet à moyen long terme. Donc moi mon objectif clairement, je l'avais dit au président, c'était de sur les quatre prochaines années d'essayer de titiller le plus haut niveau régional. Donc voilà, le discours était là, mais la première année est très importante. Donc c'est ce qui va définir si on peut atteindre ces objectifs là. C'est de finir cette saison de bonne manière et puis pourquoi pas d'essayer de jouer la montée. Mais bon, aujourd'hui j'y pense pas trop parce que on est qu'au début. Je pense que les 6 matchs, 6 victoires, ils l'ont fait la saison dernière. C'est pas ce qui leur a permis de monter à la fin de la saison. Donc on va rester prudent, on va prendre match par match, on va essayer de se concentrer et faire le point déjà à la trêve pour savoir où on en est. Et puis après engranger des points sur la deuxième partie du championnat pour essayer de voir si on peut atteindre cet objectif-là ou pas. Mais c'est vrai que moi j'ai pas cette, je suis pas omnibulé par pour penser à monter dès maintenant ou envisager l'objectif de monter de suite.
Oui, malgré qu'il y a les, bah, de malgré toute façon, dans la tête de le résultat sportif et les points, c'est une conséquence, de votre travail et c'est une conséquence de ce que vous produisez sur le terrain.
Exactement. Donc, il faut être prudent et chaque semaine, il faut se remettre en question et de continuer à travailler et de s'améliorer pour pouvoir emmener les résultats chaque week-end, ramener les 3 points pour pouvoir continuer à engranger des points et atteindre nos objectifs.
Cette poule G, du coup, vous êtes le seul Charentais. Il y a beaucoup de maritimes, quelques Girondins aussi. Quel regard tu as sur cette poule?
Clairement, je veux pas dire que je voulais éviter la poule de Charente parce que bon, je sais que voilà, les joueurs de Barbezieux, quand on regarde 90% des joueurs sont d'Angoulême, oui. Quasiment sont formés à la CSC. Et bon, voilà, c'est un derby de plus et je me voyais pas venir jouer en Charente encore où nos joueurs sont déjà connus, donc ça peut je veux dire mettre en difficulté ou jouer des matchs un peu plus compliqués. Donc je préférais aller jouer en Charente-Maritime ou à Bordeaux où déjà les équipes nous connaissent pas forcément. Surtout à Bordeaux et puis en Charente-Maritime, bon, on a évité quelques équipes qui posaient des problèmes la saison dernière, comme une équipe comme Caponis ou l'Alleux, qui ne sont pas dans cette poule. Donc on s'est dit pourquoi pas rester dans cette poule et essayer de montrer qu'on est capable de monter dans la poule qui ressemble à peu près à celle qui était l'année dernière, malgré l'absence de Caponis et l'Alleux.
Vous avez choisi Attitude 98.3 et 97, mais aussi www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission des sports. Chaque lundi, 19h-20h30, nous retrouvons Adnan El Archi qui répond aux questions de Christian et de Dédé. Comment tu définirais le niveau de jeu dans le département de la Gironde, Adnan?
La Gironde, aujourd'hui, on n'a pas forcément joué. Je crois qu'on a joué l'Alliance du Mauron à l'extérieur. D'accord. Mais je n'ai pas encore rencontré Racing Club de Bordeaux ou Saint-Loubès, qui sont vraiment Bordeaux. Mais j'ai été les voir. J'ai été voir ce week-end le match de Saint-Loubès RC Bordeaux. Donc j'ai été super observer le match pour essayer de savoir ce que ça donnait par rapport à nous. Et voilà, je pense que voilà, c'est des équipes qui ont envie de jouer. C'est des équipes qui, je ne sais pas si c'est un niveau au-dessus ou pas, mais je pense que c'est des bonnes équipes de R3. Chez nous, quoi. Clairement. Hein. Après, il y a des joueurs. Je sais que Saint-Loubès, ils ont une équipe où ils ont récupéré quelques joueurs aussi qui ont joué un bon niveau du côté de Bordeaux. Mm-hmm. Donc, forcément, ça peut ressembler à ce qu'on a un petit peu nous chez nous, quoi. Maintenant, ça va jouer dans la régularité, dans le sérieux qu'on peut mettre en entraînement et le jour du match.
Je ne sais pas si ça concerne le coach ou peut-être le président qui aurait pu lui poser s'il avait été là. C'est toujours bénéfique d'avoir des fusions dans les villes ou dans les communes.
Ça dépend.
Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais c'est une question, c'est important.
Alors moi je suis arrivé, donc je sais que c'est Barbezieux Ben Barré, donc forcément. Quand je suis arrivé, donc je me posais la question. Qu'est-ce qui est relié ces trois communes? Ben, je sens que oui, forcément, je pense qu'il y avait déjà une bonne formation. Il y avait déjà des équipes de jeunes, je pense, à Ben. Donc forcément, c'est toujours un plus d'essayer de renforcer et de se regrouper pour essayer d'être plus fort. Barré, ben, j'ai pas forcément de
retour. Il doit y avoir deux ou trois joueurs.
Exactement. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait un diagnostic de savoir combien de joueurs on a.
Il y a 500 habitants.
Donc. Voilà. Donc je sais qu'il y a un club à côté qui est Saint-Hilaire.
Oui.
Eux qui sont forcément bien, qui sont très bien à côté de nous et qui, c'est dommage qu'ils ne sont pas regroupés avec nous parce que ça pourrait faire un vrai club de regroupement. Mais bon, voilà, c'est décidé comme ça, mais on essaie de travailler dans ce sens-là. Après, clairement, c'est vrai que quand on va à Bordeaux, on parle plus de Barbezieux que de l'Alliance.
Bien sûr, ouais, c'est pour cette raison que je posais cette question. Et il est vrai que dans le sud Charente, il n'y a pas beaucoup d'équipes en régional 2. Voilà, donc pour cette raison que le président du côté de Barbezieux a peut-être mis les bouchées doubles pour justement faire revivre ce sud Charente, quoi.
Il a pensé que vaut mieux réunir pour essayer de mieux se renforcer et d'avoir de meilleures qualités. Maintenant, on essaie de travailler. Après, j'avais cette envie aussi de structurer le club, mais bon, aujourd'hui, mon emploi ne me permet pas de pouvoir développer la formation, dont avec le RTJ, qui est aujourd'hui Mika Gourceau, qui a arrêté cette année pour des raisons personnelles, donc qui voulait se consacrer sur son boulot de RTJ. Mais c'est vrai que ça me
tient à cœur. Mika Gourceau, tu joues au foot ?
Il ne joue pas cette année pour l'instant. Il a rechaussé les crampons pour se concentrer sur son boulot de RTJ. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer d'ici la trêve. Peut-être qu'il aura l'envie de reprendre avec les résultats qu'on a et puis le groupe qu'il y a. Peut-être que ça l'intéressera de reprendre. En tout cas, il est la bienvenue. Il est la bienvenue. Il est la bienvenue dans l'équipe.
La composition de l'équipe, c'est toi qui l'as fait. Et as-tu un regard sur l'équipe réserve ?
Je suis vraiment intéressé par l'équipe réserve parce que il y a qu'une division d'écart. C'est un groupe très jeune, malgré qu'il y ait pas mal d'étudiants, donc qui sont pas là la semaine. Et donc c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir s'entraîner et de pouvoir enchaîner des matchs quand on n'a pas son groupe pour pouvoir travailler. Il y a une partie du groupe qui s'entraîne avec nous. Donc voilà, ça me permet aussi de faire progresser certains joueurs de la B et donner des opportunités aussi, pourquoi pas, à des joueurs de la B de venir jouer en première, ceux qui le méritent et ceux qui confirment en B. Après, j'ai vraiment un œil dessus. J'ai vraiment envie que ce groupe-là continue à travailler parce que je pense que il y a des joueurs qui peuvent intégrer ce groupe-là et qui ont du potentiel. Maintenant, ça, il faut du sérieux, il faut de la rigueur. Et forcément, quand on n'a pas inculqué ces valeurs-là dès tout petit, c'est vrai que c'est dur d'enchaîner quand on est dans le monde senior, quoi. Mais il y a un potentiel et j'ai vraiment un regard là-dessus et je suis vraiment intéressé par cette équipe-là parce que je sais qu'il y a un potentiel et c'est l'avenir du club aussi parce que c'est des jeunes joueurs de 20 ans.
Si ça se trouve, c'est des locaux en plus, c'est des purs
Barbezieux,
beignes, barrés.
Exactement, et il faut pas oublier qu'ils ont gagné la Coupe de Charente l'année dernière, malgré qu'ils ont joué le maintien la dernière journée, donc avec des jeunes joueurs, donc je me dis que en travaillant bien, ça peut être ils peuvent s'imaginer de renforcer cette équipe et pourquoi pas de jouer un jour en R3 si nous on joue le coche quoi cette année quoi.
Et donc le week-end qui arrive, vous allez jouer si mes souvenirs sont bons, c'est contre Mata.
On reçoit Mata, ouais,
exactement. Vous recevez Mata. Pas de blessés, donc.
Pas de blessés. Momo Swali a toujours en incertitude avec son genou, donc on essaie de voir de le préserver.
Tu nous disais que 10 minutes c'était bon pour lui, donc on fait pas trop de soucis.
Maintenant, c'est de savoir s'il est capable encore de jouer ces 10 minutes ou si vraiment il ressent la douleur. Après, on a Diallo qui est suspendu, qui a pris un carton rouge le match de coupe, donc il a pris 3 matchs, il sera pas avec nous dans le groupe. Mais sinon, le groupe est toujours d'actualité. La plupart sont toujours là.
Oui, puis j'imagine que pour toi, au final, y a pas vraiment à regarder ce qui se passe autour. C'est surtout à vous de faire des bons matchs. Et si vous faites des bons matchs, les victoires s'enchaîneront. Et puis, forcément, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est surtout finalement sur vous qu'il faut se concentrer.
Bah, aujourd'hui, moi je l'ai dit, et puis je pense que les joueurs l'ont compris. Donc, on va prendre match par match et on va se concentrer à chaque semaine. On va se concentrer à l'équipe adverse qui on va jouer le week-end. Clairement, forcément, on regarde les résultats des autres, mais je m'inquiète pas des résultats qui se passent de l'autre côté, même s'il y a des matchs nuls ou des défaites, parce qu'à tout moment ça peut se renverser. Il peut y avoir des mauvaises périodes pour chacun. Donc, on reste concentré, focus, et je me dis que si nous on se concentre sur les matchs de chaque week-end, on va pas s'inquiéter, on regardera pas derrière, parce que si on fait les bons résultats, on saura où on est à chaque week-end, quoi, au niveau du classement.
D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs de ballon dans ton équipe. Est-ce que tu crains un peu cette période hivernale où les terrains vont être plus compliqués à jouer, ou peut-être que ça se jouera plus au physique? Est-ce que tu crains un peu cette période hivernale où finalement ce sera plus compliqué de poser le ballon sur la pelouse?
Il y a eu des choix par rapport à la poule. Donc il y a aussi ça, franchement, parce que jouer en Charente-Maritime.
Votre poule?
Non, pas en Charente-Maritime, il y a des très beaux terrains.
D'accord.
Donc quand tu te déplaces à Marennes et que tu retrouves une bonne pelouse, ou que ça soit même à Viron-Boutonné qui ont un bon terrain, en vérité, on n'a pas à se plaindre au niveau des pelouses sur la Charente-Maritime et à Bordeaux.
Oui, moi j'ai joué à Barbezieux, je sais pas si le terrain était comme il y a 40 ans, mais bon.
Non, il est très bien. Il est très bien. Malgré qu'on s'entraîne dessus. On s'entraîne dessus encore, et il est très bien. Il est très bien.
Et vous faites vos matchs au centre-ville?
Ouais, à la Mirandole, à Santiago.
D'accord.
Ouais.
Donc ça n'a pas changé.
Exact. Ça n'a pas changé.
Vous écoutez Attitude sur 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi sur www.attitudefm.com. C'est Culture Sport. Votre émission, chacun dit 19h20, nous retrouvons Adnan qui répond aux questions de Christian et de Dédé. C'est à vous, messieurs.
On se rappelle du week-end mitigé qu'avait vécu le club, hein, à la fois la grande joie d'avoir remporté la Coupe de Charente et puis le lendemain, malheureusement, d'avoir raté la montée. À ton arrivée, est-ce que tu as trouvé un groupe qui était affecté par cette non-montée sur la dernière journée? Est-ce que tu as eu un travail à faire avec les joueurs sur ça, ou finalement vous avez vraiment switché sur la saison qui vient?
Alors moi, quand je suis arrivé, c'est vrai que c'était pas simple, parce que après une défaite comme ça, c'est vrai que les joueurs ont pris un coup de massue sur la tête. Donc ça, il y a eu beaucoup de questions qui sont posées entre eux, dont le président, le premier, qui s'est posé la question est-ce qu'il aimerait continuer ou pas après avoir mangé cette raclée. Qui a vraiment, c'est franchement, c'est un travail de toute une saison, quoi, qui joue sur un match, et aujourd'hui tu te retrouves à perdre ta saison, et ben c'est vrai que ça travaille dans les esprits des joueurs et du président, donc forcément, donc je pense que les joueurs en sont conscients, ils ont fait la part des choses, donc ils sont remis en question, ils ont aussi beaucoup discuté avec le président pour essayer de le remotiver et de continuer avec le club et essayer de repartir. Donc il y a des joueurs aussi qui sont repartis cette année parce que ils ont envie de faire cette montée avec l'Alliance 3B, parce que c'est l'objectif qui était depuis 2 ans et qu'ils ont pas envie de partir avec une défaite comme ça, de pas pouvoir monter. Donc ça, c'était important, donc de rebooster. Je pense qu'ils étaient motivés quand je suis arrivé, donc moi j'ai bien ressenti que les joueurs étaient motivés, qu'ils avaient envie de remettre une dynamique, de remotiver un groupe et d'essayer aussi de faire des recrutements qui pourraient être nécessaires à la suite du championnat, et de permettre aussi de bien se situer sur ce championnat et de ne pas faire les mêmes erreurs que la saison dernière.
C'est peut-être en fonction de ce scénario que tu as décidé de ne pas faire des projets à long terme, donc, puisque l'histoire a appris que tout pouvait basculer sur un seul match et renverser tous les tableaux ou tous les objectifs qui étaient en place.
Oh, bien sûr, parce que j'ai eu des échecs aussi dans ma formation avec les jeunes, donc forcément j'en prends l'expérience et je me dis voilà qu'il faut plus se fixer des objectifs d'entrée et de se dire, parce que ça met une pression énorme aux joueurs, ça nous met une pression, et puis c'est pas bon quand on commence comme ça, et puis le jour où il y a une défaite ou quelque chose comme ça, c'est dur à avaler. Alors que si on prend les matchs par match et puis qu'on se focalise seulement sur le week-end, c'est plus simple pour les joueurs d'être plus motivés, d'être plus sérieux là-dessus, parce que on les bride là-dessus, quoi. On reste concentré. Et je vous dis, le rôle du préparateur physique est énorme là-dessus, parce que sur un match, juste sur l'échauffement, on peut constater la motivation des joueurs et on sait déjà comment on va terminer ce match. Et ça, c'était important.
S'il n'y a pas la pression, il n'y a pas d'erreur.
Ouais, exactement. Il faut pas se fixer, faut prendre match par match. Aujourd'hui, ça paye, le travail paye. Et il faut continuer. On essaie de s'améliorer chaque semaine. Et on essaie d'améliorer, on essaie de garder le groupe concerné, on essaie d'éviter les blessures pour essayer de rester sur cette dynamique de groupe. Maintenant, voilà, la saison est longue. Il faut que tout le monde soit concerné. Je dirais même pas les 14, je dirais même les 20 joueurs. Parce qu'à tout moment, on aura besoin. Et c'est là où ça va jouer, c'est sur la régularité et l'effectif. Parce que je pense que tout le monde n'a pas le même effectif que nous dans la poule. Et les équipes, peut-être, qui sont que 14 ou 16, et avec des suspendus, des blessés, on peut se retrouver avec des joueurs. Et on a la chance d'avoir une B qui est en première division, alors que certains clubs jouent avec des B qui sont en troisième division. Donc, faire jouer un joueur de troisième division à R3, c'est pas simple. Donc, on a cette chance-là. Mais il va falloir rester focus aussi sur la B parce que l'objectif est aussi de maintien cette année. Donc
ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de descentes de D1 en D2 et la poule de D1 est hyper relevée.
Exactement. Et puis l'effectif n'est pas énorme si forcément nous on se focalise sur une montée, donc on a un effectif un peu plus large, donc la B se retrouve. Mais j'essaye de jongler aussi, de faire jouer des moins de 23 ans sur le banc pour essayer de faire jouer le lendemain.
Ce qui va
permettre une rotation aussi et donner du temps de jeu aux joueurs.
Et puis c'est vrai qu'on faisait la réflexion l'autre jour avec l'entraîneur de Merpin, mais des équipes réserves en D1, il n'y en a pas tant que ça, même au niveau régional. Là, il y a la CFC en R1, Cognac en R2, et derrière, c'est vous avec Merpin et Leroy. Donc au final, ça prouve quand même que le club est bien structuré.
Exactement, au niveau senior, on essaye de faire le maximum. Maintenant, c'est vrai que le but aussi de structurer le club et d'avoir une bonne formation pour permettre à cette équipe B d'être enrichie par des joueurs du club et qui puissent avoir le niveau pour pouvoir jouer en première div, voire pourquoi pas en R3.
D'ailleurs, ça, en parlant de formation, est-ce que il y a Mika Gourceau qui est responsable technique jeune, mais toi, t'as aussi beaucoup vadrouillé chez les jeunes à Angoulême. Est-ce que t'as eu un droit de regard sur les équipes de jeunes de l'Alliance 3B? Enfin, est-ce que vous en avez discuté un peu avec Mika? Est-ce que vous avez fait un audit ensemble?
Alors, avec Mika, on est en train de s'y pencher parce qu'il passe son BMF, donc je suis son tuteur au niveau du BMF. Donc forcément, à un moment, je vais m'y pencher dessus. Mais c'est vrai que moi, c'est le temps qui me permet pas de pouvoir me mettre à disposition au club pour pouvoir essayer de visualiser un peu tout ça et puis essayer de travailler pour pouvoir améliorer la formation et de mieux structurer la formation. Mais c'est vrai que c'est l'inconvénient que j'ai aujourd'hui. Mais à distance, on essaie de parler avec Mika, on essaie de voir ce qu'on peut faire pour améliorer. Mais c'est vrai que c'est pas simple. C'est vraiment pas simple.
Oui, et puis la formation, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est un travail
exactement.
De longue haleine.
Alors, on l'a bien vu quand on regarde à Cognac, quand on voit Alexandre Limousin et Alvin Henry, ils ont mis 5 ans pour essayer déjà de vraiment mettre au meilleur niveau le foot à 8. Donc c'est vraiment que c'est pas simple. Ça demande du temps et ça demande des moyens et aussi de la compétence. Donc et c'est ce qu'on essaie de mettre en place au club.
Est-ce que vous avez une équipe de U18 qui est engagée dans un championnat? Et si oui, quel sont son niveau de performance?
Alors, on n'a pas du 18. Les U18 sont en senior. D'accord. Mais on a une équipe U16, U17. Donc, d'accord. U17 en championnat U17, donc avec des U16 et U17. Et une U15 avec des 14, 15 ans.
D'accord. Et en termes de résultats, comment ils se comportent?
Alors, de mon retour, moi, de ce que j'ai vu, les 17 ans, ça a l'air pas mal. Donc ça travaille, donc des résultats qui sont assez corrects. Les 15 ans un petit peu plus de mal, mais je pense qu'avec le travail ça va revenir vite. En U13 ça a l'air pas mal aussi l'équipe 1. On a des difficultés sur les U12 qui a un petit peu de retard au niveau de la formation, donc ce qui pêche aujourd'hui. Après je pense que le groupe de Mika en U10 U11 ça a l'air correct.
On évoquait tout à l'heure, je sais pas si c'est le bon moment pour poser la question, est-ce qu'il y a une équipe féminine?
Alors ça, c'était la question que j'ai posée au président. Il y en avait une, mais il n'y avait pas assez de joueuses. Donc ils ont abandonné le projet pour cette année. Alors l'année prochaine, je sais pas. Donc j'attends de savoir si le président veut se pencher là-dessus. Après, il y a un gros travail. Ça, moi qui ai eu l'expérience, je sais que c'est pas si simple que ça. Surtout que le vivier d'Angoulême n'est pas le même que celui de Barbezieux. Et que je sais qu'il va falloir une présence à plein temps pour pouvoir développer une section sur Barbezieux, forcément.
Oui, parce que quand tu parles de vivier, Barbezieux, c'est 5000 habitants.
Exactement.
Barbezieux, c'est, il y a, Voilà, il y a du rugby, il y a pas mal d'activités sportives. Et par contre, vous avez cette chance à Barbezieux, regard évidemment moi de l'extérieur, c'est que vous avez un centre commercial et une zone qui est très importante. Et ça, c'est pour vous, pour la suite, je pense que ça va être bénéfique.
Ouais, j'espère, on le souhaite.
Ça s'est confirmé sur d'autres activités. Mais c'est bien.
Exactement.
Parce que 5000 habitants avec déjà des objectifs que vous avez pour les années à venir, les 3-4 ans qui arrivent pour être en R1. Ouais, c'est beaucoup de travail. Je mets vraiment à votre place.
Ça demande du travail, ça demande des moyens, et ouais. Ça demande vraiment une énergie.
Ouais, c'est vrai.
Et d'avoir cette mentalité de vouloir progresser, mais tous ensemble, quoi. C'est très important. Hein. Ça se fait en équipe, ça se fait en club, ça se fait avec les dirigeants, ça se fait avec les bénévoles, ça se fait avec tout le club. Donc si on n'est pas tous d'accord là-dessus, forcément ça ne peut pas.
Parles, et comme tu en parles, ça sent vraiment l'esprit d'équipe. Hein. Comme tu en parles avec amour, voilà, je pense que oui, ça sent la joie de vivre là-bas.
Exactement. Après l'objectif, voilà, moi, mon avenue, c'était d'apporter cette expérience que j'ai pu avoir à Angoulême. Je sais qu'il y a un écart entre Barbezieux et la CFC, forcément. Mais déjà, de prendre quelques points qui pourraient nous aider à mieux structurer et essayer d'évoluer, de faire évoluer ce club, bah, c'est à prendre, quoi. Il faut prendre. Exactement.
Et puis, vous avez la chance d'avoir quelqu'un comme Monsieur Fornel à la tête de...
Exactement. On peut le remercier. S'il n'est pas là, forcément, c'est clair que ça change tout, quoi.
C'est pour ça que je disais, il y a un centre commercial, transport, voilà, qui s'investissent énormément, voilà.
Ouais, mais surtout, on a un président qui est très passionné et qui est très proche des joueurs et du club.
J'attendais que tu me le dises.
Il aime son club, donc moi, Xavier, je l'ai tout le week-end derrière moi et
il aime son club et il aime le sport.
Exactement. Et la semaine, il est là aux entraînements, donc il est vraiment passionné. Donc et ça, c'est bon d'avoir un président. À ses côtés et qui est vraiment impliqué dans le club et dans la vie du club, quoi.
Moi, je vais aller au-delà, si tu le permets, parce qu'il est impliqué dans le vélo, il est impliqué au rugby et il est impliqué au niveau des associations de la ville de Barbezieux. Je tenais quand même à le dire parce que...
Exactement. Voilà, c'est vrai. Ouais, la famille Fornel est une grande famille sur Barbezieux. Et heureusement qu'ils sont là, on va dire.
Et ensuite, vous allez enchaîner... Sur quel il faudra se déplacer, je suppose.
Non, on reçoit en Coupe d'Aquitaine Chamiers-Coulommiers là, qui est une bonne équipe de R3 de la poule de Charente.
Oui, qui est deuxième dans la poule F.
Exactement. Donc ça va nous permettre de nous jauger aussi sur une autre poule et puis pourquoi pas. Vaut mieux recevoir une équipe comme ça que d'aller jouer en deuxième division sur un match compliqué à l'extérieur, comme on a pu avoir le tour d'avant.
Et après, du coup, je comprends mieux pourquoi tu as été supervisé, parce que derrière, donc vous allez à Bordeaux pour affronter le Racing Club de Bordeaux. Donc, on est que le 4 décembre, hein, ce serait que la 9e journée. On peut pas forcément parler de match décisif, mais en tout cas, ça va être un match important pour au moins maintenir l'écart que vous avez fait avec eux.
Ouais, je pense aussi que voilà, on va enchaîner les matchs importants qui vont arriver, dont Saint-Loubès au mois de janvier, et puis l'hiver arrive. Donc, forcément, quand on enchaîne des victoires comme ça, on a peur un peu du relâchement, donc on essaie d'être concentré. Et c'est là où il va falloir être fort mentalement pour pouvoir continuer notre série actuelle. Ça va être important. Et puis la préparation aussi qui va arriver hivernale au niveau de la trêve, de bien préparer pour enchaîner encore une période de 11 matchs qui vont nous attendre pour pouvoir finir bien la saison et atteindre un objectif qui pourrait être la montée, pourquoi pas.
Bah oui, parce que là il y a une grosse coupure, vous terminez le 10 décembre, vous reprenez le 21, alors peut-être qu'il y a un match de Coupe d'Aquitaine qui va se caler au mois de janvier, ou enfin je sais pas tout, j'ai pas regardé le calendrier général, mais c'est
alors,
vrai que
on joue le dernier match le 12 et ensuite on enchaîne, je crois, un tour de coupe le 17.
D'accord.
Et après, si on doit rattraper le match de Jonzac, je suppose qu'ils vont le mettre le 7 janvier.
Avant, donc, ça vous fait un petit mois de trêve, grosso modo.
Je pense même pas.
Du 17
au 7, ouais, il y a 20 jours de trêve, donc c'est là où il va falloir bien travailler.
Et c'est là aussi que d'avoir un prépa physique qui lui a des programmes, c'est un avantage parce que.
Exactement.
Parce que peut-être que quand on est R3 et qu'on a juste un adjoint, l'entraîneur qu'on est, peut-être qu'on vivote un peu sur le plan physique, alors que toi, au final, t'as un spécialiste à tes côtés sur ce plan-là.
Exactement. Je m'occupe pas de cette partie, je lui laisse cette partie, donc il est il est responsable de la partie athlétique et la partie physique des joueurs. Donc moi, je me concentre vraiment sur le corps de séance et voilà, on reste en collaboration. Ça reste quand même un préparateur physique, mais aussi un adjoint. Donc on ouais. a beaucoup, on échange beaucoup sur les joueurs et sur l'état physique de certains joueurs pour pouvoir préparer les matchs le week-end.
Vous avez choisi Attitude 98.3 et 97, mais aussi www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission des sports. Chaque lundi, 19h-20h30, nous retrouvons Adnan Elarchi qui répond aux questions de Christian et de Dédé. C'est à vous, messieurs.
Est-ce que tes collègues de R3 sont un peu envieux de finalement de voir que toi, t'as un prépa physique? Est-ce que oui. Quel échange t'as un peu avec tes homologues?
Après c'est pas des homologues de Charente, donc forcément j'ai pas beaucoup d'échanges. Je découvre aussi les championnats, donc je découvre aussi les coachs adverses. Donc forcément on discute pas beaucoup de la prépa. C'est vrai qu'ils font pas attention trop, mais ils voient bien que la préparation avant match est différente et que on est vraiment impliqué. Donc c'est vrai que ça leur donne déjà une envergure du match qui va arriver, quoi.
Et forcément, nous, entraînements par semaine.
On fait deux entraînements, voire trois quand on est à l'extérieur.
D'accord.
Donc quand on joue à l'extérieur, on fait mardi, jeudi, vendredi.
Ah oui.
Sinon, c'est mardi, jeudi.
D'accord.
Donc voilà.
Histoire d'avoir la fameuse mise en place.
Exactement, on essaye, malgré qu'on peut pas avoir tous les joueurs parfois, parce que le vendredi, certains joueurs ne peuvent pas être présents. Donc. Mais on essaie de travailler, ça nous permet de faire une séance en plus, travailler les coups de pied arrêtés ou autre. Donc, ça reste une séance importante aussi la veille de match.
La compo, tu l'as fait quand?
Alors, vendredi, compo, samedi. S'il n'y a pas séance vendredi, donc moi le jeudi soir, je me penche sur ma compo et je donne le groupe. Le vendredi, si on a l'entraînement vendredi, donc le vendredi soir après l'entraînement, donc je donne le groupe.
Moi, je voulais revenir avec toi sur l'entraînement en général. T'as coaché chez les jeunes. Est-ce que tu retrouves des choses très différentes en termes de sensations? Enfin, j'imagine que le monde senior et le monde jeune, c'est complètement différent. Est-ce que t'as eu à t'adapter toi dans ton fonctionnement?
Moi, je trouve que ça a été un peu plus facile parce que quand on est dans la formation, donc forcément, on est encore dans l'apprentissage pour certains joueurs, donc on essaie de rester proche et travailler parfois sur certains joueurs individuellement. Là, on est sur du monde senior, donc les joueurs, on a la chance qu'ils ont été formés à Angoulême, donc ils ont déjà cette base et pour certains l'expérience. Donc forcément, il y a des responsabilités de chacun. Je pense que c'est plus le management à gérer que les séances. Après, moi, sur les séances, je suis resté un petit peu sur ce que je faisais habituellement. Après, c'est vrai qu'on se focalise plus sur les résultats, alors que la formation était plus sur l'apprentissage.
Ça te plaît, là, le monde senior, sur les 3-4 premiers mois de compétition, là, tu regrettes pas du tout ton choix d'avoir été au-dessus, du coup?
Non, pas du tout. Franchement, j'attendais ce moment-là, donc ça tombe bien. C'est arrivé à Barbezieux. Je m'y plais. J'ai un bon groupe. Je suis content d'avoir ce groupe-là et pour l'instant, ça, tout se passe bien. Donc j'espère que ça va continuer dans la durée et puis on essaiera d'être compensé en fin de saison.
Et puis tu l'évoquais en début d'émission. Je voulais aussi revenir avec toi sur un peu la section féminine de la CFC que tu as créée. Et il me semble que c'était pour un label, parce qu'il y a un cahier des charges à respecter, et il me semble que d'avoir une section féminine, c'était l'un des critères. Raconte-nous un peu tout ce travail de titan que tu as mené pendant plusieurs années pour avoir des filles, parce que c'est vrai qu'alors on est parti sur, moi je me rappelle du tournoi U11, U13 de la CFC à l'époque où il y avait des filles, il y avait une équipe de filles qui était engagée, mais depuis la section a fait beaucoup de chemin.
Alors ça a commencé en 2016, il me semble. Donc j'étais en formation BEF. Donc c'est là où le président et Hervé Louba à ce moment-là, je pense qu'ils ont reçu la ligue dont Vanessa juge par rapport aux critères du label. Donc ils m'ont fait part du projet. Donc ils m'ont demandé si j'étais capable de le prendre en main. Donc moi je me suis dit tiens, vu que je suis en formation, je vais le mettre en tant que projet sportif dans mon cursus de formation, et puis donc je l'ai pris en main. Ça n'a pas été facile, donc j'ai été obligé de faire un diagnostic quand on a Soyo à 800 mètres en club déjà élite et qui est très proche. Donc je me suis dit il va falloir que je fasse un diagnostic, donc j'ai pu cibler le club de Soyaux, comment il était constitué, le public qu'ils avaient. Donc moi, je me suis dirigé plus sur un public social à ce moment-là. Donc j'ai été dans les quartiers. Donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé à promouvoir le foot féminin. Donc c'était une relation pas si simple parce que il fallait convaincre les familles, avoir la garantie de pouvoir s'occuper de leur fille. Donc j'ai eu cette confiance là et puis au fur et à mesure du temps, j'ai pu aller dans d'autres quartiers d'Angoulême, de l'agglomération, et puis petit à petit ça s'est développé. Donc j'ai récupéré aussi au bout de la deuxième année certaines filles de Soyaux qui ne jouaient pas ou qui n'étaient pas conservées, et ça m'a permis de faire grandir petit à petit. Donc on a réussi à faire une équipe par an, dont la dernière année qui était l'année dernière où il manquait l'équipe senior, et c'était mon objectif d'atteindre ce projet-là sur 5 ans, d'avoir une équipe senior et de finir et de bâcler le projet. Donc j'ai atteint mon objectif, je les ai entraînés en plus, donc j'ai mis en pause les garçons et je me suis concentré sur les filles pour pouvoir développer cette équipe, constituer cette équipe qui n'était pas facile parce qu'en juillet on n'avait que 5 filles. Donc faire une équipe à 11 au mois de juillet, donc c'était un peu compliqué, mais au mois d'août on a pu avoir 12-13 filles. On s'est engagé en Coupe de France, on a fait un bon parcours, on a été en finale régionale de Coupe de France, malgré une première année avec des filles qui venaient d'arriver, donc de Soyaux et Saint-Michel, et puis certaines filles qui découvraient le foot ou des filles qui étaient formées au club. Et puis le championnat s'est enchaîné avec une équipe qui était largement au-dessus, La Rochelle.
Oui.
Qui font avec Fabrice Poulain, qui avait un objectif, c'était plutôt d'atteindre le mode pro rapidement. Donc il y avait le Cador au-dessus et puis nous on était juste derrière, et donc on a fait le même parcours. Et puis cerise sur le gâteau, à la fin de saison j'ai annoncé mon départ et on m'annonce que on a été promu en R2, on faisait partie des meilleurs deuxièmes. Donc j'étais tout content parce que j'ai fait mon projet, j'ai atteint mon projet, mes 5 ans, j'ai atteint mes objectifs au niveau du club, c'est-à-dire de constituer toute la section de débutants jusqu'à senior, et en plus derrière d'avoir une montée en R2 et de permettre aux filles d'aller jouer en régional, c'était le top. Je pouvais partir tranquillement, on va dire.
Oui, parce que c'est vrai que la problématique des filles à la CFC, c'est qu'il y avait quelques filles, j'en ai connu notamment deux, qui ont après joué à Soyaux, Anna Clairac et puis Philomène Pagnou. Mais c'est vrai que ces filles-là, du coup, comme il n'y avait pas d'équipe féminine senior, elles étaient obligées de partir le plus souvent à Soyaux. Et au final, elles pouvaient jouer avec les garçons, elles pouvaient jouer à la CFC, mais pas jusqu'en senior. C'était vraiment ça.
Exactement,
la problématique.
Les filles s'arrêtaient en U16. Il me semble qu'en U16, elles ne peuvent plus jouer avec les garçons, donc elles sont obligées d'aller dans un club où il y a une section féminine. Ouais.
Je salue ton travail parce que étant un proche entre guillemets du club, j'ai pu vraiment au fil des années, notamment avec Sébastien Bro qui t'a épaulé durant de longues années. Et puis t'as aussi quelques coups de main avec Généraux aussi, hein, qui j'avais croisé une fois, il me dit qu'il allait coacher des filles dans les travées de Le Bon. Et en tout cas, moi je te félicite pour tout le travail que t'as pu abattre avec cette section féminine parce que tu partais de presque rien
de rien
et puis t'es arrivé et puis vous êtes arrivé maintenant à être en R2, le relais est passé et le relais est bien passé.
Exactement, ça a demandé du sacrifice, ça a demandé beaucoup de temps et forcément quand il y a beaucoup plus d'équipes qui arrivent et on peut pas enchaîner tout seul toute cette section, donc c'est clair que Sébastien Brault a été un élément incontournable de la formation et heureusement qu'il est là et je le remercie parce que je pense qu'on n'en serait pas là. Et forcément, il y a eu des coachs comme Alex Généraux qui a pu prendre une équipe pendant une année. On a eu Kevin Djedje aussi, qui était joueur de l'équipe première et qui venait donner un coup de main le week-end pour entraîner les filles le mercredi puis les matchs le samedi pour les U13. Et puis on a eu Manon Chabanas et comment elle s'appelle, Lorraine Chabanas qui passait ses formations, donc on l'avait pris en stage et elle s'occupait aussi des U13, donc et qui finit aujourd'hui au club depuis l'année dernière, qui est au club, donc c'est de bon augure. Et je leur souhaite le meilleur. J'espère que cette section va continuer, elle va durer, parce que je pense que c'est le fruit d'un travail énorme. Et pour moi, c'est vraiment très important que la section puisse durer et que je puisse revenir dans 5 ans et regarder cette équipe peut-être jouer à un certain niveau et me dire que on est parti de zéro. Et 10 ans plus tard, le club a fait les efforts, a mis les moyens Et puis on te remercie le président aussi pour ses moyens et remercier tout le club, les bénévoles et tout ce qui ont pu œuvrer sur cette section pour pouvoir la développer.
Oui, puis au final, le projet de l'Alliance 3B, c'est un projet qui est allé comme un gant, parce que toi, t'es quelqu'un qui bâtit, t'es un bâtisseur, et c'est vrai que il y a aussi des très belles choses à faire du côté de Barbezieux. Au final, j'ai l'impression que vu de mon regard qui te connaît un peu, t'es mieux dans ce genre de projet où il faut bâtir et où il faut monter, plutôt que dans un club, peut-être que t'aurais été moins bien, je sais pas, je prends un exemple au hasard, à Cognac en R1 où pratiquement déjà tout est fait. Pour moi, t'as vraiment l'âme d'un bâtisseur. Je sais pas si je me trompe.
Alors, dans les clubs que j'aurais pu coacher cette année, c'est vrai qu'il y avait des clubs de réserve où je me voyais pas entraîner en régional de réserve parce que bon, on restait encore sur cette formation et que moi, je voulais connaître vraiment le monde senior et vraiment prendre mon envol là-dessus, donc connaître les épopées des Coupes de France, d'avoir un groupe à gérer et puis chercher des montées. Donc j'avais fait le choix de Barbezieux parce qu'après, c'est clair que j'aime bien bâtir, mais il faut des moyens. Donc si tu te retrouves dans un club où il n'y a pas de moyens, bah, tu te bâtis dans le vide, quoi. Et ça, c'est très difficile. Donc aujourd'hui, c'est vrai que Barbezieux, il y avait cette chance d'avoir le président qui a permis de mettre des moyens pour pouvoir bâtir. Donc il est tombé, on s'est bien entendu, et puis ça tombe bien parce que moi j'aime bâtir et quand j'ai les outils pour, ça peut marcher.
Ouais, et puis ta vie en Charente aussi, Yann, parce que c'est vrai qu'un footballeur pro, au final, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, hein, notamment dans les niveaux N2. On sait que les contrats, c'est des contrats de un an, 2 ans, que la carrière d'un joueur, tu l'as dit, hein, Portugal, Chypre, beaucoup d'endroits en France, banlieue d'Orléans, banlieue de Montpellier, donc t'as pas mal bougé. Là, du coup, en Charente, ça fait 10 ans maintenant que t'es parmi nous, tu t'y sens bien?
Alors, ouais, c'est vrai que moi, d'habitude, je fais pas plus de 3 ans dans un club, dans une ville. À part à Chypre où j'ai passé 5 ans, mais bon, j'ai fait différentes villes comme Limassol ou Larnaca ou Nicosie, donc j'ai jonglé un peu sur les 3 villes. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude, donc là j'ai battu mon record, donc je suis à 10 ans, mais je me suis marié ici, donc j'ai trouvé ma femme ici, donc on a construit ici, donc je deviens charentais, on va dire.
Ah oui, tout à fait.
On va dire c'est ça, donc voilà. Bon, après j'ai la chance d'avoir connu ma femme, peut-être que je serais pas là si je l'avais pas connu, mais voilà, aujourd'hui c'est vrai qu'on est installé là. Après, je sais pas ce que l'avenir nous prévoit. Aujourd'hui, je suis concentré sur mon objectif à Barbezieux. Après, j'ai mon travail aujourd'hui aussi à Soyaux où je suis animateur de rue. Donc, pour l'instant, je suis installé. On va voir ce qu'il en est dans un avenir proche.
Bon, on la remercie ta femme parce que du coup, c'est grâce à elle qu'on a réussi à conserver un technicien de qualité.
Ouais. C'est clair.
Vous avez choisi Attitude 98.3 et 97, mais aussi www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission des sports. Chaque lundi, 19h-20h30, nous retrouvons Adnan El Harchi qui répond aux questions de Christian.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Ad, du coup, pour les saisons prochaines? Je parle pas de monter forcément en R2, hein. Ça, on verra au fil des matchs, mais la Coupe de France, c'est quelque chose qui t'a vraiment, qui te tient vraiment. Est-ce que tu avais déjà fait des parcours en tant que joueur, toi, en Coupe de France?
Parcours en Coupe de France, non.
Pas forcément. Oui, donc c'est vraiment quelque chose que du coup que tu recherches aussi, d'avoir ces émotions-là.
Exactement, c'est quelque chose que j'aimerais bien vivre. Cette année, c'était compliqué parce qu'on avait cet objectif d'enchaîner les matchs et de vraiment pas perdre le fil là-dessus, ou de fatigue avec les enchaînements des matchs, surtout en Coupe de France, où plus tu passes des tours et puis tu rencontres des équipes plus difficiles, donc forcément t'en laisses des plumes et ça peut pénaliser au niveau du championnat. Mais voilà, on était content de jouer une R1, donc de pas sortir par une équipe de R3 ou de district, donc c'était important ça. Et pourquoi pas par la suite, ouais, ce serait un objectif. Peut-être que si l'année prochaine on est en R2, peut-être qu'on aura un objectif différent et qu'on pourra se pencher là-dessus. Mais aujourd'hui, forcément, c'est clair que c'est quelque chose qui me tourne dans la tête. Et j'espère que dans un avenir proche, on pourra se concentrer là-dessus et faire des bons parcours là en coupe.
Ouais, puis c'est vrai que d'avoir vu des affiches comme Strasbourg, comme les Herbiers, des 32e, des
quand on voit le parcours d'Hervé Louba, je devrais prendre un peu d'expérience de lui.
Oui, parce que Hervé, c'est Monsieur Coupe de France. D'ailleurs, il affronte les Girondins de Bordeaux ce week-end encore.
Exactement. Ouais. Exactement.
Et puis c'est vrai que de voir aussi un club comme Merpin, là, qui arrive au 7e tour, ou comme Sireuil, qui avait fait aussi un 7e tour il y a 3 ans, je crois, ça donne forcément des envies, et puis ça inspire, parce que c'est des clubs finalement qui sont pas si loin que ça en termes de niveau par rapport à vous.
Bah exactement, c'est clair que dans un avenir, je pense que l'équipe va mûrir, les jeunes vont prendre d'expérience et peut-être qu'à ce moment-là, pour l'instant c'est pas l'objectif, mais à ce moment-là, oui, ça pourrait être une idée d'enchaîner. Je pense que même le président aimerait vivre ces moments-là au stade de Santiago à Barbezieux, d'avoir une foule de supporters et d'enchaîner des matchs comme ça. Ça serait bon pour la ville et le club.
Ouais, bah on verra l'année prochaine. Après, la Coupe de France, c'est toujours une histoire de tirage, hein, donc il faut être épargné, mais pas trop non plus, quoi.
C'est ça. Je pense que c'est un peu de chance aussi, hein.
Ouais.
Dame Coupe de France nous réserve souvent bien des surprises.
Hein. Exactement. Tu peux te faire sortir rapidement par une équipe, une grosse équipe d'entrée, et tu peux faire des parcours intéressants. Bah, on peut voir Mertin aujourd'hui. On peut les féliciter pour leur parcours parce que c'est pas si simple d'arriver au 7e tour. De Coupe de France.
Je regardais, il y a un club que je suis, moi, historiquement, c'est lié à des attaches mayennaises. Donc, c'est Laval, ils se sont fait sortir par une R1 en Coupe de France. C'est te dire si, parfois, quand même, les choses peuvent tourner dans le bon sens, quoi. C'est extraordinaire, ça.
Exactement. C'est le charme de la Coupe de France.
Adnan, avant de nous quitter, on va faire on prépare nous une émission, une quotidienne ou en tout cas une hebdomadaire sur la Coupe de France, sur la Coupe du Monde.
Pardon. Ah ben Adnan, on peut lui poser la question sur le parcours du Maroc, lui qui aime bien aller à Marrakech en vacances. J'imagine que ça sera notre consultant sur l'équipe du Maroc.
Pourquoi pas. Bon, on est un peu déçu. J'étais un peu dégoûté de la blessure de Amin Harit hier. Ouais. Donc je disais que voilà, le Maroc se porte bien depuis un an ou deux là, depuis la Coupe d'Afrique. Donc aujourd'hui on a un nouveau coach, Walid Regragui, qui a cette expérience aussi, qui a été joueur en France et international. Donc
c'est l'ancien joueur de Toulouse.
Exactement. Il avait fini à Fleury Mérogis, je crois. Et puis il a un parcours d'entraîneur au Maroc où il a été champion du championnat marocain. Et aujourd'hui la tête de sélection. Ouais, exact, avec le phare.
Le phare
de Rabat, ouais. Et le WAC, exactement, les deux. Il a été deux fois champion, ouais.
Et un regard sur l'équipe de France, Adnan, si.
Mais bien sûr, on reste quand même français aussi, donc on va suivre les deux équipes. Après, on souhaite le meilleur aux deux équipes, et puis pourquoi pas qu'ils puissent se rencontrer dans les tours après les huitièmes de finale, qui sait, on ne sait pas. Au moins passer les poules. Oui, commencer.
Ça serait bien, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a dans la poule du Maroc, Adnan?
Alors, il me semble qu'il y a la Croatie, le Canada et la Belgique. D'accord, donc c'est une poule assez relevée, ouais.
Ouais, Belgique, gros morceau.
Ouais, la Croatie qui a été en finale aussi, donc forcément un gros morceau.
Et puis après, le Canada, il y a un joueur de balle, donc forcément c'est une belle équipe.
Voilà, on va dire que c'est des équipes comme ça qui sont les plus dures à jouer, quoi.
Oui. On va croiser les doigts, donc à la fois pour l'équipe de France et pour l'équipe du Maroc. Donc. À qui on souhaite le meilleur et on leur souhaite une bonne
Coupe du Monde.
Ouais. Voilà, longue vie. Christian, est-ce que tu avais une dernière question à poser ou est-ce que tu as fait le tour de la question?
Oh bah écoute, non, je pense qu'on a assez posé question à Adnan. Moi, je passe un petit coucou à tous les anciens Zogoumoisins, au Cantus, Momo, Soalia, Daku, enfin Richard Pelletier, enfin tous les anciens que je connais très bien, et j'espère qu'ils arriveront à leur objectif commun avec Ad. Et puis, moi, je leur donne rendez-vous en fin de saison, en début de saison prochaine, lorsqu'ils évolueront un cran au-dessus. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite du plus profond de mon cœur.
Merci, Christian.
Parfait. Adnan, on te remercie de ta disponibilité, d'avoir accepté rapidement notre invitation et d'avoir été si prolixe et nous avoir appris à connaître un petit peu mieux le club de l'Alliance 3B. Donc, encore une fois, merci beaucoup. On te souhaite à toi et à ton équipe le meilleur pour la saison qui vient. Et on fera ensemble, un bref retour au mois de juin pour savoir où est-ce que vous en êtes et s'il y a une bonne surprise au bout de cette saison qu'on vous souhaite le meilleur possible.
J'espère aussi. Bon, en tout cas, merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Et puis, on croise les doigts pour cette année. Et puis, je vous souhaite aussi... une bonne Coupe du Monde à tous et voilà, on va prendre du plaisir et on va essayer de regarder ça de près.
Parfait, merci beaucoup Adnan, à très bientôt.
Merci à vous, au revoir.
Salut, bonne soirée, bon courage pour l'entraînement.
Salut, bonne soirée, merci, au revoir.